En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Cause Commune.
Bonsoir à tous, bienvenue dans En attendant le moment, émission hebdomadaire d'actualité du nouveau média indépendant et collaboratif appelé Le Moment. Ce média qui se propose d'explorer de nouvelles façons de travailler ensemble et expérimente des projets éditoriaux communs élaborés par différents médias membres de ce collectif. Et bah, c'est exactement ce qu'on va faire ce soir dans cette émission. On va parler retraite, le gouvernement qui a enfin dévoilé sa feuille de route. En gros, si ce projet est adopté, nous travaillerons jusque 64 ans à la place de 62 actuellement pour toucher une retraite à taux plein. Il faudra aussi cotiser pendant 43 annuités. Bref, cette réforme est ultra impopulaire. Et avant même sa discussion au Parlement, une intersyndicale annonce une première manifestation d'ampleur le 19 janvier prochain. Cette réforme est-elle injuste? Se justifie-t-elle aussi pour préserver le système de retraite français par répartition? Question entre autres que nous allons poser à nos invités, avec notamment la sociologue Danielle Linhart, directrice de recherche émérite du CNRS, autrice de L'insoutenable subordination des salariés aux éditions RS Paris en 2020. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Deux autres invités, Dominique Poitvin du syndicat Printemps Écologique sera avec nous tout à l'heure par téléphone. Et puis en fin d'émission, nous recevrons Solène Klinge, responsable communication de Trouve ta voix.
En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Cause Commune.
Et nous allons d'abord commencer cette émission par vous faire écouter un petit message d'une auditrice qui nous a appelé pour nous poser une question lors de l'émission de la semaine dernière, et c'était absolument adorable.
Bonjour, j'ai entendu ce samedi matin 7 janvier, vers environ 12h30, une personne qui parlait d'un lieu culturel qui doit être aménagé dans le centre de Paris, dans une ancienne bibliothèque, donc un lieu très grand où se manifesteront différentes réunions, concerts, conférences. J'ai essayé de téléphoner, mais ça ne répondait pas. Voilà, donc je laisse mon message. J'aimerais beaucoup connaître ce lieu parce que tout allait très vite et j'ai pas eu le temps de noter. Et puis vous ne l'avez pas redit à la fin de l'émission. Voilà, je vous remercie infiniment et j'aime beaucoup votre radio. Très bonne journée et bonne année.
Eh ben merci beaucoup déjà, merci d'être à l'écoute de nos émissions, et on vous promet on parlera moins vite la prochaine fois. Et donc pour vous répondre et pour tous les auditeurs, parce que je pense que ça les intéresse, nous sommes installés à Césure, un tiers-lieu qui se trouve être sur le campus universitaire de Sancier, sur ce site qui sera ouvert au public à partir de la mi-février. Il y aura 180 structures associatives notamment, mais pas que, des acteurs culturels, des artistes ans, qui vous propose une programmation culturelle. Vous pouvez déjà aller sur le site de césure.paris pour avoir quelques infos et suivre l'actualité de ce site, et bien évidemment suivre nos publications à nous, médias, Le Moment, pour savoir également ce qui s'y passe.
En attendant Le Moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Cause Commune.
On va lancer cette discussion sur les retraites avec Philippe Le Saffre, créateur du magazine Le Zéphyr. Bonjour Philippe. Et puis également avec Jacques Tibéry, rédacteur en chef du Low-Tech Journal.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Je vous en prie, la parole est à vous.
Alors, avant de débarrer le débat, on écoute Jacques Tibéry du Low-Tech Journal. Donc, c'est ton billet d'humeur au lendemain de l'annonce du gouvernement. Alors Jacques, tu nous fais part de ton regard d'éco-anxieux sur la réforme des retraites.
Ah, la retraite. Être payé à rien foutre, le rêve. Oui, mais en profiterez-vous avant l'effondrement de ce monde?
Ah!
Comme dirait Denis Brognard. Oui, faire des mèmes à la radio, c'est possible. Qui aurait pu prédire que la crise climatique... Qui peut prédire que les générations X, Y et Z ne toucheront pas un centime de leur cotisation retraite? Qui, je vous le demande? Eh bien, moi je peux. Oui, oui, chère auditrice. Oui, parler l'écriture inclusive à la radio, c'est possible. Je disais donc, oui, chère auditrice, laissez-moi vous poser une question. Aurez-vous 63, 65 ou 67 ans avant l'effondrement? That is la pregunta. Pourquoi je vous demande ça? C'est évident, voyons. Allez, Prenez un papier, un crayon et le résidu de temps de cerveau disponible que vous pouvez gratter là-bas au fond de votre lobe droit. Ça y est ? Alors voilà, vers 2040, les travailleurs et travailleuses de la génération 1960-75 seront probablement les premiers à subir le plein effet des réformes des retraites qui ont eu lieu par le passé et celles qui arrivent aujourd'hui. Mais pensez-vous vraiment que notre système de retraite, cette usine à gaz administrative et comptable où s'enchevêtrent les droits des uns et des autres, s'entrecroisent des modes de calcul et de gestion à la fois publics et privés, généraux et spéciaux, pensez-vous vraiment que ce micmac technico-administratif et financier survivra au cataclysme climatique, aux pénuries d'énergie, à la fonte du tiers du permafrost, à l'affaiblissement des rendements des cultures de riz, de blé, de maïs, de soja, aux pénuries d'eau potable et aux guerres de l'eau qui iront avec, aux déplacements massifs de population en Australie, en Afrique, mais en Europe aussi. Bref, pensez-vous que le système de retraite par répartition survivra à l'effondrement de notre mode de vie, que prédisent et décrivent de plus en plus d'études venant aussi bien du MIT que du National Intelligence Council américain, sans oublier le fameux rapport Meadows qui date de 1972 quand même. En 2050, nous serons probablement rattrapés par une hausse des températures d'1,5 degré supplémentaire en moyenne. 1,5, ça ne représente pas grand-chose pour vous, mais en fait, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire 50 degrés à Bordeaux presque tous les étés. Les retraités tiendront-ils le coup ? Zatiz la pregunta. Alors, à tous ceux qui vont manifester contre la réforme jeudi prochain, je propose un petit slogan de mon cru. 3, 4. Pour sauver ta retraite, sauve la planète. Pour sauver ta retraite, sauve la planète. Allez, bonne manifestation et surtout bonne cotisation à tous.
Merci Jacques, merci pour ta chanson. Du coup, je poursuis. Daniel Linhart, peut-être vous avez une réaction pour commencer à cette belle chronique.
Elle est magnifique cette chronique et en même temps, elle est très intelligente parce qu'effectivement, elle met en relation la question du travail, de l'avenir des travailleurs avec celle de l'avenir de l'humanité sur notre planète. Et en réalité, effectivement, à travers la question de la retraite, se pose une autre question qu'on oublie tout le temps, c'est est-ce que cette espèce d'insoutenable idée partagée par tous que ça va se prolonger encore n'est-elle pas reliée au fait que le travail est devenu quelque chose d'insupportable, quelque chose où on perd le sens, la finalité du travail, où on perd le sens du collectif et où on vit la subordination d'une manière de plus en plus prégnante et qui rend la souffrance, elle aussi, de plus en plus présente. Donc je crois qu'il y a un trio qui est celui du sort des travailleurs qui se détériore avec la modernisation managériale et qui ne peut pas critiquer cette détérioration à cause du lien de subordination qui est au cœur de la relation salariale. Et donc si l'on veut pouvoir affronter l'avenir de façon un peu plus sereine, y compris du point de vue écologique, il faut libérer les travailleurs de cette entrave qui les empêche de repenser, de réinventer des modalités de production et de consommation et donc faire sauter le verrou de la subordination qui va inventer un travail nouveau qui sera beaucoup plus tolérable, qui fera peut-être que les gens accepteront volontiers de travailler jusqu'à 62, 63, 64, s'ils ont l'impression de faire quelque chose d'utile, dans lequel ils se retrouvent, dont ils peuvent être fiers et qui prend du sens au prisme des enjeux écologiques, peut-être que la question de la retraite se posera différemment. Bref, pour moi, la pregunta majeure, c'est l'avenir du travail. C'est l'avenir du travail. Celui-ci n'existera pas tant que les salariés seront tenus par le lien de subordination qui les empêche de critiquer, d'inventer et d'inventer ensemble des nouvelles modalités de production et de travail qui ne soient pas prédateurs, ni pour les travailleurs, ni pour les ressources de la planète.
Philippe, la retraite, c'est source de conflits. Pourquoi finalement à ce point, je pose la question assez simplement, pourquoi la méfiance se joue là, spécialement sur la question des retraites, même s'il y a aussi la question du travail, évidemment qu'on pourra en parler, mais sur la question de la retraite, pourquoi c'est si source de conflits, de mésententes ?
Alors, il y a cette impression d'une injuste remise en question des règles du jeu, qui sont ce à quoi s'accrochent la plupart des salariés, des fonctionnaires, face à des situations de travail de plus en plus insupportables. Donc ils se disent, au moins, voilà, je vais essayer de m'en sortir, je vais essayer de tenir le coup. Alors il y en a qui prennent des substances psychoactives pour essayer de tenir au travail, bon, il y en a qui font des dépressions, il y en a qui font des burn-out, il y en a qui se suicident, mais bon, les gens se disent, tant que je peux, je tiens, mais alors qu'on ne vienne pas du jour au lendemain remettre en question des règles du jeu, ce sur quoi j'avais bâti mon rapport à ce travail délétère qui faisait que je le supporte parce que je me disais au moins à partir de tel et tel âge qui était prévu auparavant et qui faisait partie du contrat social, je savais que je pouvais avoir une autre vie. Bon, ça c'est remis en question de façon technocratique et de façon complètement indifférente par des hauts responsables politiques qui n'ont aucune connaissance réelle de ce qui se joue dans les milieux de travail où les gens véritablement ont l'impression de perdre leur vie, mais presque. C'est-à-dire, on leur demande tellement, on les met en concurrence les uns avec les autres, on les met en concurrence chacun avec soi-même. Il faut se dépasser, il faut avoir le goût du risque, il faut sortir de sa zone de confort, il faut accepter les difficultés, être réactif, etc. Il faut montrer qu'on est résilient pour avoir sa place dans le monde du travail. Bon, on accepte. Mais on a une espèce de butoir, on se dit, voilà, le cauchemar va cesser à telle date, et voilà, quand on vous dit, ah ben non, tous les ans, il y aura 3 mois de recul, etc., etc. Donc effectivement, je crois qu'on ne peut pas déconnecter la façon dont est vécue par la majorité des Français l'idée de repousser l'âge de la retraite, donc la façon dont c'est vécu par rapport à des situations de travail où la plupart des salariés, qu'ils soient des cadres, des ingénieurs de très haut niveau, ou des opérateurs et des employés ou des techniciens, se sentent dans une situation d'impuissance. Voilà. Je crois que ce qui caractérise le rapport au travail dans notre société, c'est le sentiment d'impuissance. Eh bien, ce sentiment est redoublé quand on vient vous changer les règles du jeu.
Daniel Nihard, pour placer un petit peu recentrer le débat sur le travail, pourquoi est-ce que depuis 30 ans, les libéraux, je pense à Nicolas Sarkozy, mais pas que lui, puisqu'il avait fait une campagne sur la valeur travail, c'est aussi repris par Emmanuel Macron, parle de la France comme d'un pays où on travaillerait pas assez par rapport notamment à l'Allemagne ou à nos voisins, et un pays où la productivité serait plus faible, et donc c'est ce qui justifie que donc nous devions travailler plus longtemps pour équilibrer le système des retraites. Ma question est toute simple, est-ce que nous travaillons moins que les autres, est-ce que cet argument est valable en fait?
C'est une question très intéressante et très importante, vraiment, parce que depuis 1994, avec l'émission, vous étiez tous trop jeunes pour la connaître, de Yves Montand sur la 2. Yves Montand, il y avait une émission qui s'appelait Vive la crise, qui a d'ailleurs été reprise par le journal Libération sous forme d'un supplément qui a été diffusé à des millions d'exemplaires. Et Vive la crise avec Yves Montand, c'était de dire, allez, la crise, elle arrive au bon moment pour rappeler aux Français qu'il faut se retrousser les manches et qu'ils sont bien trop frileux par rapport au travail. Donc a été introduite cette idée que les Français étaient paresseux et qu'ils étaient surtout arc-boutés sur leurs acquis, sur leurs avantages, leurs privilèges. Et puis cette idée, elle s'est progressivement développée et elle a été nourrie par des évolutions qui nous ont mené aux 35 heures, effectivement. Ah ben, vous rendez compte, en France, on travaille 35 heures, mais c'est pas normal. Avec aussi l'idée qu'on avait un code du travail trop protecteur, obèse, nous a-t-on rebattu les oreilles. Et puis, bon, beaucoup une surprotection des salariés fonctionnaires et qui sont trop nombreux par rapport à d'autres pays. Donc, ça a été quelque chose qui a été construit, une espèce de remodelage de l'opinion publique. Il y avait aussi Raffarin, le Premier ministre, qui était allé du Québec remettre un petit peu à l'ordre, rappeler un peu à l'ordre les Français en disant, mais il faut pas imaginer que la France soit un lieu de Luna Park et de distraction, il faut travailler. Et puis, comme vous l'aviez dit, la campagne de Sarkozy sur la réhabilitation de la valeur travail, sous-entendant qu'effectivement elle n'était pas considérée comme quelque chose d'important. Or, quand on regarde toutes les enquêtes qui ont été faites sur le rapport au travail, notamment dans les 27 pays européens, des travaux qui ont été interprétés par Dominique Méda et Lucie Davoine, montrent que le rapport au travail en France est très particulier. Les Français considèrent que l'activité professionnelle est quelque chose de particulier particulièrement important comparativement aux autres pays européens. Et il y a cette idée que l'identité se forme à partir de l'activité professionnelle, que l'image de soi, la socialisation, ça passe par l'activité professionnelle. Donc il y a une focalisation extrêmement forte sur le travail, mais il y a aussi l'affirmation d'une déception très forte, parce que le travail n'est pas ce qu'il devrait être. Donc il y a des attentes extrêmement fortes, un investissement, et d'ailleurs il y a un sociologue qui s'appelle Philippe Diribarne, qui a fait des études comparatives avec nombre de pays dans le monde entier, qui dit en France il y a une particularité, c'est ce qu'on appelle la logique de l'honneur dans le monde du travail. Les Français mettent leur honneur dans l'activité du travail, comparativement à d'autres pays où c'est plus le rapport contractuel qui domine. C'est-à-dire par exemple dans les pays anglo-saxons, les salariés vont dire bon, si on me dit de travailler de telle et telle manière, même si je trouve que c'est pas la meilleure, la plus intelligente, je le ferai parce que c'est ce qu'on me demande, c'est dans le contrat, et puis sera le boss qui en payera les frais. Tandis qu'en France, ce sera vécu, explique Philippe Diribarne, comme une souffrance, quelque chose qui n'est pas possible. On ne peut pas demander à un professionnel de ne pas travailler selon les règles du métier, les principes de l'art du métier. Donc il y a quelque chose qui est très particulier dans le rapport au travail en France, et d'ailleurs nous avons une intensité productive horaire qui est une des plus fortes au monde. Donc on nous rebat les oreilles de fausseté, parce que le rapport au travail est quelque chose de très très important en France. Les Français travaillent beaucoup quand ils travaillent, mais ils ne travaillent pas que 35 heures la plupart du temps, et nous avons une productivité qui est tout à fait respectable, sinon très spectaculaire. Elle a été une des plus fortes au monde pendant les 30 Glorieuses.
Hein. Jacques Thibéry, une question ? Non, pas de question. Alors Philippe Le Saffre, une question peut-être ?
Oui, vous avez dit dans une interview récente, je crois que c'était au Huffington Post, vous avez dit que, et je vous cite, que le paradoxe est que chacun a le sentiment qu'il travaille beaucoup mais que les autres ne travaillent pas. En gros, c'est que les autres sont peut-être des assistés, si je reprends une expression d'autres personnes. D'où vient cette idée de méfiance ? Est-ce que c'est dû à un manque d'échange entre les gens ? Les gens travaillent entre les collaborateurs qui ne se parlent plus ? Ça vient d'où ?
Alors, c'est venu de deux choses. La première chose, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée dont on nous rabat les oreilles que en France on travaille pas. Voilà. Bon, donc effectivement, chacun a tendance à se dire moi je travaille, puisque en France on travaille. Mais alors ça doit être les autres qui travaillent pas, puisque moi je travaille, ce sont les autres qui travaillent pas. Il y a un livre qui est sorti de Baudelot et plusieurs, Christian Baudelot, qui est un sociologue, qui utilise beaucoup les statistiques et d'autres chercheurs sur je crois que c'est faut-il travailler pour être heureux, le titre du livre, où il montre que chacun a personnellement l'impression d'être exploité. Personnellement, que ce soit les ouvriers, les cadres, il y a une espèce de rapport au travail qui a été complètement construit par la modernisation managériale sur un mode personnel, sur un mode individuel. Parce que de plus en plus, il y a des primes individualisées, des objectifs personnalisés. Il faut savoir que même sur les chaînes de montage, je suis allé dans une entreprise, dans une usine, où les opérateurs avaient des objectifs personnalisés. Et puis j'en ai vu certains qui se sont mis à se tabasser les uns les autres parce qu'ils avaient des rapports de clients-fournisseurs les uns avec les autres. Donc il y a une mise en concurrence, un rapport qui n'est plus du tout celui qui existait pendant les 30 Glorieuses, à savoir de solidarité, de convivialité, de sentiment de partager un destin commun, de valeurs communes. Il y a eu une individualisation, personnalisation, psychologisation de la relation de chacun à son travail. Montrez-nous qui vous êtes, en stimulant la dimension narcissique. Et dans cette dimension, effectivement, dans ce registre narcissique, chacun a l'impression que les autres sont des concurrents, chacun a l'impression qu'il ne doit pas se confier aux autres, mais montrer qu'il se sent toujours le meilleur, le plus fort. Donc, moi, j'ai fait des interviews, par exemple, de cadres de très haut niveau qui me disaient « Moi, je souffre beaucoup au travail, mais je n'ose pas le dire parce que tous les autres ont l'air d'aller très très bien. » Et donc, il y a vraiment ce sentiment que, surtout, il ne faut pas
le
dire.
Je crois qu'il y a 50% des cadres qui ont fait un burn-out ou se sont retrouvés en situation de burn-out. C'est dans un sondage que j'avais vu, enfin une enquête qui avait
été faite. Ah oui, mais surtout, il ne faut pas le dire.
Il ne faut pas le dire parce que ça, c'est mal vu, oui.
Non seulement c'est mal vu, mais on risque d'être mis à la porte et parce qu'on est considéré comme non performant, pas adapté aux nouvelles règles du travail. Donc, les gens ne disent pas, ne parlent pas entre entre eux, ils ne parlent que de ce qu'ils ont vu à la télé ou des matchs de foot, ne parlent pas de travail entre eux, chacun. Et je ne sais pas si vous avez lu ce livre formidable qui s'appelait L'Open Space m'a tué, où il montrait, hein, c'était Isnard et j'ai oublié l'autre nom, malheureusement, et chacun doit arriver sur l'Open Space en disant « Ah, je me sens dans une forme extraordinaire, je vais déchirer aujourd'hui, surtout si on n'a pas dormi de la nuit parce qu'on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, il faut montrer qu'on est en pleine forme. » Donc, effectivement...
Nous, on a résolu le problème, il n'y a pas d'open space ici. Il n'y a que des bureaux.
Mais c'est bien, c'est très très bien. Et donc, voilà, il y a une méfiance à l'égard des autres. On ne partage pas, on n'a pas le sentiment. Si vous voulez, l'équation antérieure pendant les 30 Glorieuses où à travail égal, il y avait salaire égal, maintenant ça a volé en éclats et chacun négocie son destin personnel dans l'entreprise en concurrence systématique avec tous les autres. Donc, c'est méfiance, on ne se parle pas, on ne s'entraide pas, on ne partage pas. Et c'est pas par hasard, par exemple, que les places de coworking extérieures sont très prisées, parce qu'on ne rencontre pas les gens avec qui on travaille. Mais on n'est pas tout seul chez soi à la maison, on est avec d'autres travailleurs avec lesquels il n'y a pas d'enjeu de compétition.
Jacques Tibéri a retrouvé sa question.
Voilà. Ce que vous venez d'expliquer, là, cette mise en concurrence au sein des équipes, est-ce que ça permettrait d'expliquer le très faible taux de syndicalisation qu'on a aujourd'hui en France ?
Ah ben bien sûr, parce qu'on n'a pas le sentiment, lorsqu'on est projeté dans des logiques individualisantes comme ça, on n'a pas le sentiment d'avoir les intérêts communs avec les autres. Donc effectivement, c'est pas naturel, c'est pas une démarche naturelle que d'aller prendre contact avec un syndicaliste et éventuellement de prendre sa carte. Alors qu'avant, si je reviens toujours aux 30 Glorieuses, quand un jeune arrivait dans un collectif, on lui disait, bon, on va te montrer où est le vestiaire, mais on va te emmener voir le responsable syndical, tu vas prendre ta carte. Voilà. Il y avait une socialisation qui passait par la syndicalisation. Là, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Alors effectivement, il peut y avoir des syndicalisations, mais on les voit surtout quand les gens ont des problèmes personnels qu'ils ne peuvent plus surmonter, ils vont demander de l'aide. Non pas à leurs collègues, non pas à leur hiérarchie,
mais c'est pas défendu par un syndicat.
Absolument.
Ça tombe bien parce qu'on va avoir dans quelques minutes par téléphone un syndicat, un éco-syndicat, ça c'est une première, ça s'appelle Printemps écologique, je sais pas si vous connaissez, créé il y a 3 ans maintenant, et on aura un de ses représentants en ligne pour nous parler de ça. Il y a 2 points que je voulais aborder avec vous, on a le temps, hein, donc on va prendre notre temps. Première chose, c'est l'emploi des seniors dont on parle pas forcément beaucoup et qui nous aide peut-être à comprendre cette réforme des retraites qui imagine un monde qui n'existe pas, c'est-à-dire que dans le monde dans lequel on est, les personnes de plus de 50 ans ont une employabilité, je trouve le mot horrible mais on comprend tous, absolument terrible, c'est-à-dire que si vous êtes au chômage à 50 ans, c'est quasiment impossible de retrouver un emploi, ou si vous êtes dans une entreprise, on vous met souvent à 58 ou 59 ans en pré-retraite pour vous dégager des effectifs. Pourquoi est-ce que on ne développe pas plutôt de l'accompagnement de ces personnes-là pour les laisser dans l'emploi le plus longtemps possible? Ça réglerait une partie du problème.
Alors,
est-ce que c'est une volonté politique de...
C'est une stratégie. En fait, si vous voulez, les anciens, les seniors n'apportent pas grand-chose du point de vue.
Mais c'est faux ça.
Bien sûr que c'est faux, parce que c'est eux qui ont de l'expérience, du savoir, de l'expérience individuelle et collective, donc et des connaissances, des compétences, etc.
Envie de transmettre.
Mais, il faut savoir que le monde de l'entreprise, sous le coup de la modernisation, il s'est beaucoup transformé, et notamment, il a une pratique qu'on voit terriblement dans toutes les entreprises publiques comme privées, c'est la pratique du changement perpétuel, du changement permanent. Mais c'est très important, parce que c'est une manière, dans la perspective taylorienne, déposséder les salariés de leur savoir et de leurs connaissances. Parce que Taylor avait bien compris que le savoir, c'était du pouvoir. Donc si on laissait le savoir aux ouvriers dans les ateliers, on leur laissait le pouvoir. Toute l'intelligence du modèle taylorien, c'est un transfert des savoirs ouvriers des ateliers vers l'employeur. Bon, donc à l'heure actuelle, il y a la même perspective. Attention, le savoir, c'est du pouvoir. Ça permettrait aux professionnels, surtout français avec leur logique de l'honneur, de dire ah non, il faut pas qu'on travaille de telle et telle manière. Nous savons comment il faut travailler. Nous savons ce qu'est un travail de qualité, un travail qui a du sens. Un travail, un beau travail dans lequel on puisse reconnaître. C'est le cauchemar des employeurs que de voir les salariés travailler à leur, selon leur état d'esprit et les valeurs qui leur sont propres. Donc, il faut les déposséder de leurs connaissances pour qu'ils ne puissent... Et alors, le changement permanent, c'est un moyen de mettre en obsolescence les savoirs qui ont été constitués auparavant. Si tout change tout le temps, comme, et c'est le cas, on restructure les départements, on restructure les services, on recompose les métiers, on change tout le temps les logiciels, on crée des mobilités systématiques, on fait des déménagements géographiques, bref, il y a, tout change tout le temps. Les salariés perdent leur repère, et du coup, les anciens, les seniors ne servent plus à rien. Puisque ce qu'ils ont constitué comme sagesse professionnelle, savoir et compétences n'est plus à l'ordre du jour, parce que c'était des savoirs qui sont datés d'il y a 2 ou 3 ou 4 ans, mais comme on répond tout le temps, même au sociologue qui dit, mais je crois que, oui, ce que vous dites est vrai, mais c'était pour il y a 2-3 ans, maintenant, c'est plus du tout comme ça. C'est-à-dire que cette espèce de changement perpétuel qui brouille les cartes, qui brouille les repères, c'est un moyen de déposséder les salariés de tout pouvoir de critiquer et qu'on voit qui a été expérimenté pour en premier chez France Télécom, hein, à la fin des années 90, ils ont compris.
Une grande expérience de ressources humaines.
Ah oui, moi je donne toujours
en rigolant, mais sans rire. Enfin,
cette anecdote que j'ai vécue, c'est à la fin des années 90, j'étais invité à un séminaire pour présenter mes travaux sur l'organisation du travail à des cadres de France Télécom. Et à la fin, il y en a un qui est venu, qui était plutôt apparemment un cadre de haut niveau, et il me dit, vous savez, quel est mon boulot à moi ? Je dis non, dites-le moi. Mon boulot, c'est de créer de l'amnésie. Moi, je dis pourquoi vous voulez créer une amnésie ? Parce que nous allons entreprendre un virage commercial et donc nous voulons vider les cerveaux de nos agents de toutes ces valeurs du service public pour qu'ils soient réceptifs aux nouvelles valeurs plus commerciales. Mais il m'a dit comme ça. Et je dis, mais d'accord, ok.
Au moins, il avait l'honnêteté d'être cynique, mais c'était honnête.
Non, il pensait qu'il était efficace et performant. Et je lui dis, d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour créer de l'amnésie ? Et il m'a dit, madame, c'est simple, il faut secouer le cocotier. Ça veut dire sortir les agents de leur routine, de leur réseau de complaisance, de leurs habitudes, pour qu'ils se sentent un petit peu fragilisés et réceptifs à nos nouvelles valeurs de travail.
Bon, une dernière question rapidement.
Oui, rapidement. Des études montrent que les gens veulent être davantage impliqués aux décisions prises par la direction des entreprises, impliqués aux initiatives. Est-ce qu'il y a le sentiment que l'entreprise abandonne ses collaborateurs en tant qu'humains ? Est-ce qu'il y a le sentiment que finalement l'entreprise avance sans ses employés finalement ?
Mais alors, le problème, c'est qu'ils valorisent trop l'humain par rapport au professionnel, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir un respect de ce rapport particulier qu'ont les Français au travail, qui se traduit par un engagement réel, au lieu d'avoir le respect de leur professionnalité et de la qualité de leur engagement, il y a toujours cette peur qui est cette peur des managers qui est tout le temps là, parce que la France a une tradition de lutte des classes avec en plus cette logique de l'honneur, et les managers français pensent qu'ils sont plus mal lotis que leurs homologues dans les autres pays, que c'est plus difficile de mettre au travail les Français. Donc leur stratégie, j'ai oublié, je m'excuse, le début de votre question, c'était...
Non, je disais que des études montraient, c'est en étant que les employés, les collaborateurs voulaient être beaucoup plus impliqués par les décisions prises, par
les entreprises. Alors, effectivement, vous disiez, ils n'ont pas d'humanité, ils ne développent pas un humanisme à l'égard de leur...
Il n'y a pas de collaboration,
il n'y a pas de coopération. Il y a trop d'humanisme, c'est-à-dire qu'on... Ça a à voir avec ce que je disais tout à l'heure en termes de psychologisation, narcissisation. On cherche à titiller la dimension spécifiquement humaine, mais on ne respecte pas la dimension professionnelle, c'est-à-dire la capacité et la volonté d'engagement professionnel des travailleurs qui veulent réaliser un travail dans lequel ils puissent se reconnaître et être reconnus par les autres.
Vous écoutez En attendant le moment, et on fait une petite pause musicale avec ce titre de Gontard, TTL.
Cette histoire commence ici. Cette histoire commence maintenant. Nous partirons sur les chemins, solidaires, debout et fiers. Nous créerons le monde de demain, de bois, de chemins et de rivières. À qui est ce nouveau monde ? Il est à toi, il est à nous. Venu de partout, de ces zones dont on ne parlait plus, tu viendras. Par les sciences, les lettres, les arts, tu viendras. Et tu crieras victoire. Et nous crierons victoire.
Je suis là, bordel de merde ! de la poésie aussi.
Jamais comme maintenant, les arbres sont nos alliés face aux méfaits des monstres prédateurs. Ici et ailleurs, maintenant et demain.
À ceux qui refusent les destins tout faits, à ceux qui luttent face aux échecs programmés, à celles qui dansent sur les fatalités, à celles qui font les cités rêver, à ceux qui affirment leur liberté, et à celles qui savent le défi à relever. Ici, c'est chez toi, entre amis, en toute liberté. Ici, on souffre, mais on se soigne. Entre amis, ce territoire est libéré. À celles qui dansent sur les fatalités, à celles qui font les cités rêver, à ceux qui affirment leur liberté et à celles qui savent le défi à relever. Ici, c'est chez toi, entre amis, en toute liberté. Ici, on souffre, mais on se soigne. Entre amis, ce territoire, tu l'as libéré.
On va continuer notre discussion avec Daniel Linard. Donc désolé, j'ai prononcé le T. Non mais si, ça se fait pas, hein, franchement. Directrice de recherche émérite au CNRS, autrice de l'insoutenable subordination des salariés. Alors on parlait là des seniors. Autre point que je trouvais intéressant qu'on évoque avec Jacques Tibéri du Low-Tech Journal et Philippe Le Saffre du Zéphir Magazine qui co-anime cette émission, c'est la question des travailleurs précaires, les personnes qui sont dans les emplois les plus pénibles et qui du coup, bah, s'il y a réforme de retraite, vont donc travailler plus longtemps. Et effectivement, quand on est, je pense, chauffeur de bus, femme de ménage, ASH dans un hôpital, bien évidemment que c'est long, 2 ans, voire un peu moins si on est, parce qu'en fait, ça va être graduel. Mais effectivement, c'est une réforme qui va les impacter. Est-ce que pour vous, c'est une façon cynique de faire porter la réforme sur ceux dont le travail est le plus pénible, cette réforme?
Différence mais vertigineuse entre les cadres, par exemple les ingénieurs qui travaillent dans des conditions physiques qui sont agréables puisqu'ils peuvent les retrouver chez eux en télétravail, donc ils peuvent mener à peu près la même vie qu'ils mènent chez eux, et les personnes qui sont dehors par en hiver ou en été avec de la chaleur dans le bâtiment, dans les travaux publics, ceux qui s'occupent effectivement dans les EHPAD de patients qui exigent des efforts physiques énormes, ou les assistantes même maternelles, etc., les ouvriers qui ont des conditions pénibles, et des ménageurs, ça n'a aucun sens de mettre dans le même sac tous ces gens-là par rapport au nombre d'annuités et par rapport à l'âge de départ à la retraite. Effectivement, ça n'a aucun sens. On devrait considérer que les cadres doivent partir à un âge différent que les ouvriers. Ça me semble la plus élémentaire des justices. Et là, on est dans une espèce de fourre-tout où chacun vaut chacun. Il y a une espèce d'indifférence quant au phrénique, là. Voilà, on calcule, on compte, on regarde, on enlève, on remet. Ce sont des pions, ce ne sont pas des êtres humains dont on connaît les modalités de travail, et c'est vraiment infernal. Et aussi de dire qu'on va donner 100 euros de plus à des gens qui vont avoir 80%, mais c'est du SMIC, on appelle plus ça le SMIC, du SMIC. Du SMIC, parce que c'est le SMIC qu'on appelle. Du SMIC brut. Enfin, c'est absolument incroyable. Enfin, je trouve que entre ce que va recevoir en retraite un cadre qui est payé 4, 5, 6 000 euros et une personne qui s'est démenée pendant toute sa période d'activité dans des conditions difficiles, vraiment, c'est quelque chose qui est intolérable à l'esprit, intolérable.
Philippe,
certaines personnes estiment qu'il y a des privilégiés, d'autres estiment également qu'il faut que les autres travaillent davantage. Il y a aussi des gens qui disent qu'il faut qu'ils méritent, ils pensent qu'ils peuvent mériter leur retraite à 60 ans ou un petit peu plus, 62, 60 ans, et d'autres qui sont oubliés. Bref, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de pensées sur d'autres, sur les autres, sur ceux qui travaillent à côté de nous, les cadres, et ceux qui sont pas, cadres. En d'autres termes, est-ce que tout vient d'une méconnaissance entre les différents métiers, et comment on fait pour que voilà, il y ait cette envie à nouveau de faire société? Je ne sais pas si je suis un petit peu...
Alors, il y a une méconnaissance et en même temps le fait que systématiquement l'opinion publique a été travaillée, enfin de la même manière pour penser qu'on ne foutait rien en France, excusez-moi du terme, mais pour penser en termes d'opposition entre les catégories. Alors tout le monde est d'accord pour taper sur les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils foutent rien, ils partent à la retraite plus tôt. Enfin, certains ont des régimes spéciaux. Leur retraite est calculée sur les derniers mois, alors que c'est sur les 30 dernières années pour le privé. Donc tout le monde est d'accord pour taper sur les fonctionnaires. Après, les précaires disent non mais c'est pas normal, les CDI... ils sont vraiment privilégiés, de quoi ils se plaignent lorsqu'ils se mettent en grève, etc. Et puis les chômeurs disent, mais ils se foutent de nous tous. Bon. Donc il y a vraiment des oppositions systématiques parce qu'elles ont été travaillées, elles ont été largement élaborées sur le plan politique et idéologique. Et on a une société qui est totalement fractionnée et effectivement, il n'y a pas de solidarité. D'où pourrait venir cette solidarité? Ben, je pense qu'elle pourrait venir de ce qui a été dit en introduction, c'est-à-dire que nous sommes tous concernés par les mêmes éventualités catastrophiques sur le plan écologique et qu'il y a intérêt à considérer que les humains ont des intérêts communs. Au-delà de ces différentiels liés aux emplois, au travail, etc., on est quand même tous objectivement confrontés à cette possibilité d'une détérioration absolument spectaculaire et dramatique des possibilités de vie des jeunes, de survie des jeunes et des générations futures. Donc voilà, il y a cette prise en compte écologique qui me semble tout à fait nécessaire et qui devrait être un objectif prioritaire pour repenser, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les modalités de production et de consommation. Et donc effectivement, la question de la retraite, c'est ce que vous disiez au début, elle doit être repensée...
Il faut parler dans le micro.
Elle doit être repensée dans ce prisme-là, c'est-à-dire à quoi ça sert d'avoir des retraites énormes pour certains, puisqu'il va falloir, on espère que tout le monde l'acceptera, consommer moins, voyager moins en avion, faire moins de dépenses. Bon, voilà, s'agit pas de parler de frugalité parce que pour moi c'est pas être frugalité, c'est simplement quelque chose de raisonnable. On peut tout à fait profiter de la vie sans être prédateur par rapport aux ressources planétaires. Et donc pour répondre à votre question, comment on pourrait imaginer de réconcilier ces différentes catégories de la population qui s'opposent et qui se déchirent, c'est en les mettant face à un enjeu qu'ils ont en commun, et là ils sont à égalité.
Jacques Tibéri, une question?
Oui, alors la formation tout au long de la vie, c'est un concept que moi j'ai entendu la première fois, je crois que c'était sous Jospin. Est-ce que ça n'avait pas pour but de permettre à des personnes qui ont un travail dit pénible de le quitter progressivement à un moment donné de leur carrière pour aller vers des emplois plus doux, si on peut dire, mais qui exigent plus de diplômes ou bien des formations spécifiques de pédagogie, de rédactionnelle ou que sais-je. Donc par exemple, commencer un travail ouvrier dans une usine et puis à un moment donné, pouvoir s'en extraire et puis... devenir, que sais-je, avocat ou... et ça, ce principe-là, est-ce que finalement, ça ne serait pas une des solutions à apporter, c'est-à-dire véritablement renforcer les temps de formation pour permettre à des personnes de changer de métier au moment où le métier dit pénible devient carrément insupportable?
Ça pourrait être une solution, mais d'autres solutions, ça pourrait être de transformer la pénibilité, enfin, d'essayer de transformer la pénibilité de ces métiers et de faire en sorte qu'ils ne soient, par exemple, de demander à ceux qui s'occupent, qui sont des aides, comment on appelle ça, les aides, pas les aides-soignants, mais les aides à domicile.
Les aides à domicile.
Bon, de travailler moins, d'être moins longtemps, d'être à deux au lieu d'être tout toutes seules quand elles interviennent auprès d'une personne dépendante. Enfin, on peut imaginer aussi transformer les métiers ouvriers, les métiers d'employés, de manière à ce qu'ils soient beaucoup moins astreignants. Et puis, on pourrait, comme le font beaucoup de jeunes d'ailleurs, reconsidérer. Nous avons un regard qui est assez péjoratif, assez méprisant à l'égard des métiers manuels. Mais regardez, il y a des jeunes qui sortent des grandes écoles, qui est de management, de l'ESCP, etc., et qui deviennent pâtissiers, boulangers, ou qui font du...
Mais il y a beaucoup de jeunes ici qui font de la menuiserie, notamment.
De la menuiserie.
C'est eux qui ont fait notre table de studio.
Et de la cuisine, etc. C'est des choses remarquables, c'est des choses qui sont belles. Parce que nous avons un regard extrêmement dévalorisant sur ces métiers, parce que il y a du mépris social, ce sont des métiers qui sont mal rétribués et qui ont des conditions de travail assez déplorables avec des horaires en équipe, etc. On peut tout à fait imaginer d'avoir un autre regard et d'autres pratiques pour ces métiers.
On va ouvrir une page dans notre discussion sur le côté environnemental. Est-ce que cette réforme de la retraite, dont nous parlons depuis une heure, Jacques en a parlé en introduction avec son billet d'humeur, on va dire, est-ce qu'elle vous paraît être en phase, en adéquation avec les limites planétaires, les 9 limites planétaires, dont 6 ont déjà été dépassées dû à l'activité humaine?
Alors là, je répondrai comme tout citoyen ou citoyenne. Je crois que c'est complètement déconnecté, qu'il y a une logique technocratique de mise en place de cette réforme qui ne tient pas réellement compte des véritables situations de travail ni des urgences climatiques. Je crois que c'est complètement déconnecté. C'est quelque chose qui se déroule de façon sur le mode d'une rationalité qui a ses propres valeurs, ses propres critères, complètement indifférentes des autres.
On a presque l'impression parfois, je ne veux pas être complotiste, mais qu'à un moment donné, il y a un objectif qui n'est pas dit, qui n'est pas avoué, potentiellement peut-être la privatisation de tout le merdier, ou bien plutôt l'orientation vers la création de systèmes complémentaires, et que toutes ces réformes sont une sorte de saucissonnage d'un processus. On avance pas à pas pour que il n'y ait pas trop de révolte, pour que le choc ne soit pas trop brutal. Et à un moment donné, on amène les gens vers un objectif. Et est-ce que finalement, cet objectif n'est pas connu par des personnes comme vous qui travaillez sur la question depuis longtemps?
C'est un peu complotiste quand même comme question.
Alors, non, mais se rendre compte qu'il y a finalement, à un moment donné, on sait où va la ligne qui est tracée. Elle conduit inévitablement à des formes de privatisation de
nos
systèmes
de retraite.
En fait,
vous m'accusez de non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que je sais, mais je ne fais rien.
C'est ça.
Non, mais je ne fais rien du tout. Non, je crois...
Il faut parler dans le micro, excusez-moi.
Oui, il y a une logique, là. Effectivement, nous sommes dans un monde du travail en France qui est complètement soumis à la rationalité économique libérale à court terme. Voilà. Donc, je pense qu'il ne voit pas plus loin que ça. Mmh. Et je dirais que... Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Je ne suis pas politiste, mais que Macron, il ose le faire maintenant parce qu'il se représentera pas au prochain quinquennat. Donc voilà, s'il y a des oppositions, s'il y a des mobilisations, bon, on retiendra dans l'histoire que c'est Macron quand même qui aura fait passer cette importante et décisive réforme de retraite. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il vise. Mais il y a une sorte de limitation, franchement, du prisme de préoccupation des politiques. Chacun est dans son, voilà, dans son champ, les économistes, ceux qui s'occupent de sécurité, voilà. Et on le voit dans les entreprises, c'est pareil, c'est-à-dire c'est la logique des critères, les logiciels qui sont fabriqués de façon complètement binaire, voilà, bon, ça nous aide pas à penser.
Alors, on continue notre discussion avec vous, Daniel Lina, on va d'abord écouter un morceau et ensuite accueillir notre nouvelle invitée, Solène Klinge, de la communication de Trouve ta voix, pour terminer cette émission ensemble.
Il a des chaînes sur la mais je flex sur moi.
Quoi?
Esclave moderne reste assis et continue à slave. Elle tue pour moi mais je vais pas la save. Je peux pas signer de contrat si y'a moins que sur mes safe. Trade. Ah. Ma shit, je l'ai pas. Mojito a toujours son mât. Pour de hit, l'attends juste mon top. Et ma bitch, elle s'applique quand elle me top. J'ai déjà avec my your world. Non, non, j'peux pas flop. L'engouement, mais j'suis pas des flops. Mon swag, POS. Quand je mange, je lâche des flacs. Anti, 17. Toute ma vie, je fuck un flic. Toute ma vie, je ferai ce fric. Et sur le Gabon, j'aime trop l'Afrique. Ils veulent me signer depuis que je fais les clics. Je me contrat jamais, je flic. J'ai tourné ma liasse en week et j'aime vraiment ma clique. Tracks are so flat as shit. Il a des gènes sur l'âme et veut flex sur moi.
Quoi?
Esclave moderne, reste assis et continue à slave. Elle est toi pour moi, mais je vais pas la save. Je peux pas signer de contrat si à moins que sur mes safe.
En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Cause Commune.
C'était Chip avec le morceau Implacable dans En attendant le moment. On continue et on termine cette émission dédiée au travail et aux retraites avec la sociologue Danielle Linard. Et nous accueillons pour un débat entre générations, on va dire ça comme ça, Solène Klinge, responsable communication de Trouve ta voix. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors je me permets de dire un dialogue de génération puisque vous n'avez pas tout à fait le même âge.
Ah non.
Mais je ne me permettrai pas de le donner, ça ne se fait pas paraît-il.
Moi, je suis jeune depuis plus longtemps que vous.
C'est vrai.
Solène, est-ce qu'on peut se tutoyer?
Bien sûr.
Voilà. Est-ce que déjà tu peux nous présenter Trouve ta voix?
Bien sûr. Alors Trouve ta voix, c'est une association engagée pour l'égalité des chances, dont la mission est de permettre aux jeunes de révéler leur potentiel par la prise de parole. Et donc concrètement, chaque année, on mobilise 80 formateurs et formatrices bénévoles qui interviennent pendant 10 semaines dans des lycées publics prioritaires pour former les lycéens à la prise de parole en public. Donc l'idée, c'est pas de faire d'eux des rhéteurs professionnels. Au contraire, on n'est pas vraiment axé sur l'éloquence. L'idée, c'est vraiment de montrer que chaque jeune a une voix et que cette voix compte. Donc après, libre à nos jeunes de s'exprimer de la façon dont ils le souhaitent, que ce soit dans la sphère privée, familiale, publique ou politique, peu importe. L'idée, c'est vraiment de faire naître des vocations, peut-être, et de mettre des petites graines dans leur esprit. Et puis à l'issue de ce cycle de formation qui dure donc 10 semaines, c'est un engagement assez important pour nos bénévoles, on organise le plus grand concours d'éloquence lycéen de France qui se structure sur plusieurs échelles. Donc d'abord au sein des lycées, ensuite entre les lycées à l'échelle des académies. Donc on est en partenariat avec les académies de Paris, Créteil et Versailles. Et puis ensuite on a une grande finale qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale en 2018 et au Panthéon depuis 2019.
J'ai vu les images sur votre site internet, ouais. C'est assez impressionnant d'ailleurs, enfin, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'exprimer au Panthéon. Généralement, c'est réservé à des présidents, des ministres. C'était très classe. Enfin, j'ai regardé ça sur votre site internet. Impressionnant. Le but de tout ça, améliorer la confiance en soi, accompagner des jeunes qui peut-être se sentent éloignés de la prise de parole, en leur montrant qu'en fait, ils ont toutes les compétences en eux. C'est ça?
Exactement. Moi, personnellement, avant d'être donc en communication chez Trouve ta voix, j'étais formatrice moi-même. Et j'avais certaines de mes élèves, donc je m'adressais à un public à ce moment-là exclusivement féminin, j'étais dans une classe ASSP de jeunes filles qui se destinaient à devenir infirmières, et j'avais beaucoup d'élèves qui n'osaient même pas répondre lorsqu'on faisait l'appel. Donc partant de ce point de vue-là, on peut se dire que c'est un petit peu compliqué, que ce soit dans leur vie privée ou professionnelle, de se faire entendre. Et donc au fur et à mesure des formations, on leur donne des outils de forme et de fond qui leur permettent de structurer un discours, et partant de là, j'ai vu des vocations naître, des voix s'élever, et je pense à cet élève qui n'osait pas répondre à l'appel et qui a quand même déclamé un discours à la Sorbonne quelques semaines plus tard, et je me dis que finalement aujourd'hui ça a peut-être un impact dans sa vie de tous les jours. Alors, donc je dirais ouais, changer la vie des jeunes quelque part, c'est ambitieux mais c'est la mission qu'on s'est donnée.
Est-ce que vous pourriez par exemple leur donner un thème sur les retraites pour leur prochaine prise de parole?
Et ben je pense que oui, complètement. Quand j'étais moi-même formatrice, au début je pensais amener des sujets un petit peu très terre à terre. Parfois on demande des sujets bêtes mais qui demandent d'argumenter. On leur demande alors vous préférez je sais pas manger du Nutella avec une cuillère ou un couteau, ça paraît très bête, mais ça nécessite d'argumenter, mine de rien. Donc on part parfois de sujets très terre à terre pour amener le débat et puis l'échange, tout ça dans un cadre de bienveillance et d'intelligence collective. Mais très vite, j'ai vu que ce qui titillait les jeunes, bah, c'était les sujets d'actualité. Alors à l'époque, c'était la guerre en Ukraine. Alors c'est un sujet triste, mais ça les intriguait beaucoup. Je pense que le sujet des retraites, c'est important qu'on en parle, dans la mesure où ce que j'entends beaucoup dans les classes de la part des jeunes, c'est que de toute façon, les jeunes, issus de lycées prioritaires ou non, peu importe, mais les jeunes de toute façon n'ont pas d'avenir, je cite, ou n'auront pas de retraite. Donc quand on entend ça, on se dit mince, il y a quand même un débat qui a lieu, il y a des enjeux qui sont importants et qui sont portés dans l'arène publique et dont les jeunes ne se saisissent pas parce qu'a priori ils sont pas concernés. Donc les retraites, ce serait carrément quelque chose à proposer, justement parce que ceux qui sont peu intéressés a priori pourraient investir le sujet et se rendre compte qu'ils sont concernés.
Est-ce que toi, à titre personnel, je sais pas si t'as écouté un petit peu l'émission avant de rentrer en plateau, est-ce que tu te sens concerné par la réforme des retraites? Alors c'est pas un sujet, on dit qu'on donne pas ton âge, mais tu me l'as
déjà dit. J'ai 23 ans.
Donc tu es plutôt jeune. Est-ce que tu te sens concerné par cette actualité, justement?
Alors, sur le plan technique, pas forcément, parce que c'est un sujet très technique, que ce soit la durée de cotisation, les annuités, les décotes, c'est très technique. Donc partant de ce point de vue-là, ça peut paraître parfois un peu indigeste comme sujet. Honnêtement, c'est pas le sujet le plus sexy, je dirais. Maintenant, c'est vrai que il y a des signaux assez forts, l'âge de départ à la retraite, la durée de cotisation, qui interpellent parce qu'ils sont compréhensibles. Maintenant, personnellement, dans mon cas, j'ai fait des études longues, je suis encore étudiante puisque je suis en alternance, donc je sais que de toute façon, je vais partir tard à la retraite. Donc l'âge de départ à la retraite, moi je me suis faite à l'idée que le mien serait assez tardif. Maintenant, je pense à mes amis ou même les publics auxquels on s'adresse dans le cadre de l'association, qui travaillent souvent plus tôt, qui font parfois des emplois assez pénibles. Oui, ils sont directement impactés par ce passage, par ce retardement de l'âge de départ à la retraite. Donc, moi personnellement, je me sens pas particulièrement impactée.
Tu auras une retraite un jour quand même, ou est-ce que tu te poses même pas la question?
Alors je me dis que j'aurai une retraite. Maintenant, je me suis un peu faite à l'idée. C'est vrai que cette retraite serait tardive et voilà. C'est vrai que c'est un peu fataliste. C'est un sentiment fataliste assez dangereux. Je pense qu'il faut essayer de travailler peut-être en allant en manifestation, en investissant le sujet. Mais bon, personnellement, c'est vrai que je suis faite à l'idée que ce serait assez tardif.
Daniel Lina, on en parlait tout à l'heure, mais c'est ces carrières potentiellement qui peuvent désormais être éclaté. Par exemple, Solène parle de, elle va arriver sur le marché du travail, même si elle travaille déjà, mais peut-être un emploi salarié très tard. Il y a énormément de jeunes qui, en fait, finalement, rentrent dans le salariat et en partent très vite parce que ça ne les intéresse pas de travailler de cette manière. Donc, qu'on va avoir une génération qui va, finalement, avoir peu d'annuités, en fait. D'annuités, pas de... Oui, c'est ça, c'est des annuités, entre guillemets, qui va avoir une façon de travailler qui va être très éclatée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des retraites à 70 ans? C'est imaginable, ça?
Ou incomplète. C'est vraiment le risque. Et il est d'autant plus grand, ce risque, que pas mal de directions d'entreprise invitent des jeunes à se mettre en auto-entrepreneuriat, en freelance, etc. Parce qu'ils n'ont plus, en tant qu'employeur, de problèmes de gestion, de cotisation, etc., etc.
Pas de cotisation sociale, notamment.
Mais bien sûr, ils n'ont plus...
Pas de cotisation retraite aussi.
Voilà. Et ils peuvent utiliser, comme ils le souhaitent, aussi bien ces freelance, ces auto-entrepreneurs, ces personnes qui sont à leur compte, et c'est quelque chose qui tend à se développer, parce que justement on leur dit, vous n'êtes pas salarié, vous êtes libre, ça convient parfaitement à la génération Y, Z, etc. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez, mais c'est des gens qui vont être en difficulté ensuite pour avoir des retraites. Alors on espère qu'ils pourront compter sur leurs parents, leurs vieux retraités, s'ils sont encore en vie, mais c'est un vrai problème. Mais moi, parce que vous êtes toute jeune, effectivement, moi j'ai entendu dans des débats télévisés des gens qui disaient, pourquoi est-ce que tout l'effort porte sur les actifs qui vont devoir travailler plus longtemps et pas sur les retraités à qui on pourrait diminuer les retraites? Et ça, on sent que c'est un débat qui va s'avancer et qui va certainement éclater au grand jour. Pourquoi?
D'une certaine manière, c'est mettre un conflit de génération.
Absolument.
C'est la meilleure manière de, entre guillemets, foutre le feu.
Absolument, absolument, de désolidariser. Alors que pour l'instant, ceux qui sont à la retraite aident beaucoup. aide beaucoup les jeunes à s'en sortir et tout le monde est bien content qu'il y ait ce petit capital qui peut être transmis aux plus jeunes pour les aider. Mais on sent qu'il y a en ce moment une politique qui vise à mettre en concurrence les retraités et les actifs.
Oui, vous dites que les retraités aujourd'hui sont actifs du point de vue financier, mais ils sont aussi actifs du point de vue bénévolat, du point de vue action dans la société. Moi, j'ai entendu dire qu'en gros, sans les retraités, il y aurait tout un pan de l'économie française en fait, qui s'effondrerait. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Mais notamment le monde associatif. Quand vous regardez ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, dans chaque entreprise, il y a quelques salariés, mais il y a beaucoup de bénévoles, Et effectivement, ce sont ces bénévoles d'ailleurs qui vont chercher des subventions, qui font des projets et qui permettent au monde associatif de survivre. Si on se passait de tous ces bénévoles, il y a aussi beaucoup de bénévoles dans le monde sportif, dans le monde culturel. Vous parliez vous-même des formateurs, les 80 qui sont eux-mêmes des bénévoles. On voit que beaucoup de beaux projets marchent parce qu'il y a des bénévoles qui sont d'accord pour travailler derrière.
Bah 10% du salariat en France, c'est le monde associatif. Hein. C'est, 10% du salariat en France, c'est le monde associatif.
Oui.
Solène, est-ce que vous avez fait partie de ces jeunes qui manifestaient pour le climat ?
Alors, j'ai fait une marche pour le climat l'année dernière, oui.
Est-ce que, du coup, là, il va y avoir une mobilisation sociale à partir du 19 janvier, intersyndicale, justement, pour ces réformes de retraite ? Est-ce que vous vous sentez concerné par cet appel à manifester ? Ou est-ce que ça...
Eh bien, après cette émission, certainement plus, hein, quand même. Franchement, si. Après, c'est vrai que...
Si on peut mettre des gens dans la rue, ça nous donne une certaine forme d'influence. Merci.
Non, si, c'est vrai. Bah, en fait, c'est vrai qu'avant de participer à cette émission, je savais même pas que j'avais forcément un avis là-dessus, donc partant du principe que maintenant je sais que j'en ai un, complètement.
Et vous avez une voix.
Effectivement. Je pose cette question à dessein, c'est pour savoir si tu considères que la lutte climat, entre guillemets, est-ce qu'elle prévaut sur la réforme des retraites ou est-ce que ce sont des choses qui sont liées ? Tu vois, ce que je veux dire, en gros, c'est le social et l'environnement. Est-ce que ça doit devenir des luttes communes, interdépendantes et pas sectorielles ?
Non, moi je pense que ces luttes convergent et doivent converger. Je pense pas qu'on peut isoler un combat d'un autre. Alors à titre personnel, parfois on est obligé de, entre guillemets, choisir ses luttes parce qu'on peut pas faire toutes les manifs et s'engager pour toutes les causes. Maintenant, penser le système des retraites, c'est penser le futur et la façon dont il va s'agencer, entre guillemets. Et je pense que c'est complètement lié aux enjeux climatiques. Penser le bien-être des personnes âgées et des seniors, c'est penser l'environnement dans lequel ces mêmes seniors seront amenés à vivre. Et donc, pour moi, c'est complètement lié.
On est bientôt à la fin de cette émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Trouve ta voix ? Peut-être une actualité, un appel ? Est-ce que tu as besoin d'utiliser cette émission pour communiquer, tout simplement ? Parce qu'on est là aussi pour ça, pour donner la parole à des associations qui méritent d'être un peu plus médiatisées.
Alors on a plein d'événements ponctuels à venir, notamment une social battle d'éloquence qui aura lieu au Social Bar le 25 janvier.
Qu'est-ce que c'est qu'une social battle d'éloquence ?
C'est un débat, alors c'est un terme très technique, mais c'est un débat convivial, voilà. Et puis plus généralement, on a notre campagne d'appel aux dons qui est toujours ouverte, donc il suffit d'aller sur notre site. Voilà.
Le site qui est
trouvetavoix.org.
Trouvetavoix.org. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant, Daniel ?
Très intéressant.
Faut parler dans le micro toujours. Alors ça, par contre, j'aurais pas réussi à vous faire parler dans le micro.
Il me semblait que pour la préparation au baccalauréat, à l'oral.
Faut parler dans le micro toujours, de nouveau.
Excusez-moi. Pour la préparation de l'oral au baccalauréat, il y a aussi ce type de formation qui se fait en terminale, non ?
Justement, l'épreuve a évolué dans la mesure où depuis 3 ans, on impose aux jeunes un grand oral, mais les formations ne sont pas adaptées. En fait, c'est-à-dire que l'examen a changé, mais les formations sont à peu près restées les mêmes. Et c'est pour ça que nous, partant de ce créneau-là, on offre cette formation aux jeunes, justement, pour qu'ils se sentent aussi prêts pour l'épreuve.
Mais je trouve ça très, très, très fondamental.
Eh bien, merci pour beaucoup. Vous pourrez continuer cette conversation à la fin de cette émission. Merci beaucoup à toi, Solène Klinge, responsable communication de Trouve ta voix, d'être venue dans notre studio. Merci beaucoup à vous, Daniel Linard, d'avoir été notre grand témoin, entre guillemets, pendant cette heure dédiée au travail et à la retraite. Merci beaucoup également à Philippe Le Saffre du Zephyr Magazine d'avoir co-animé cette émission, à notre ami Jacques Tibéri pour sa chronique d'humeur, fondateur et rédacteur en chef du Low-Tech Journal d'avoir participé à cette émission, et à Olivier Grieco de Radio Cause Commune d'avoir réalisé cette antenne. Nous vous remercions tous pour l'écoute. Sachez que vous pouvez écouter cette émission sur Aligre FM en direct, en réécoute le jeudi à midi sur Radio Cause Commune et en DAB également, et puis le week-end, le samedi et le dimanche matin à 11h sur Vivre FM. Bref, de larges manières de nous suivre. À très bientôt et à la semaine prochaine.
En attendant le moment, sur Vivre FM, Aligre FM et Cause Commune.